les podcasts de Radio Vatican.
Journée de manifestation ce jeudi 12 décembre au Honduras. Le président sortant Juan Orlando Hernández a appelé ses partisans à descendre aujourd'hui dans les rues de la capitale Tegucigalpa pour célébrer sa réélection. Cette réélection n'est pourtant pas officielle. Certes, d'après le Tribunal suprême électoral, le TSE, Juan Orlando Hernández a obtenu 42,98% des voix contre 41,38% pour son opposant Salvador Nasralla lors de l'élection à un tour du 26 novembre dernier. Mais l'opposition dénonce des fraudes et des sympathisants n'ont cessé de manifester leur colère depuis le vote. Face à la contestation, le président a accepté de recompter l'ensemble des bulletins si l'opposition fait la demande au Tribunal suprême électoral, le TSE. Elle a jusqu'à ce vendredi pour déposer un recours, mais dénonce ce tribunal et souhaite soit un recompte sous contrôle international, soit un nouveau vote. Lors de l'Angélus dimanche dernier, le pape François avait dit prier particulièrement pour les Honduriens afin qu'ils puissent sortir de cette période difficile de manière pacifique. La conférence épiscopale du pays a appelé en début de semaine les partis à maintenir un dialogue respectueux entre les membres de la communauté et à rejeter toute forme de violence en attendant la vérification des bulletins. Elle souhaite aussi que le TSE agisse avec transparence. Écoutez Mgr Guy Charbonneau, l'évêque de Choluteca au Honduras, interrogé par Samuel Blény.
Je pense que le tribunal suprême électoral fait tout ce qu'il peut. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est débordé aussi, débordé par tous les événements. Et ils sont très peu nombreux et ils n'ont pas la confiance de beaucoup de gens, surtout l'opposition.
Est-ce qu'il peut la regagner, cette confiance?
Je pense que oui. Le tribunal doit répondre aussi, il y a un temps prévu par la loi pour répondre à ces contestations et le plus rapidement possible, d'une façon la plus transparente possible, peut arriver à un résultat, j'espère en tout cas, parce que d'autres solutions ont été avancées, de refaire l'élection. Le pays n'est pas en moyen économique de recommencer une élection actuellement. On parle d'un deuxième tour, mais ce n'est pas prévu dans la Constitution, un deuxième tour. Alors, c'est des solutions qui peuvent être avancées, mais il faut prendre en compte aussi la réalité du pays, la pauvreté des gens et la pauvreté du pays. Ouais.
Justement, comment réagissent les gens à cette situation? Un couvre-feu avait été instauré par crainte de violence, mais il a été retiré de certaines zones.
L'état de couvre-feu a été aboli dans la plupart des départements du pays. Dans mon diocèse, il n'y a plus de couvre-feu. Seulement dans la capitale, je crois, et dans la ville de San Pedro Sula, où il y a eu le plus de manifestations pacifiques, mais aussi avec des excès de violence. Alors, le couvre-feu, dans mon coin de pays, c'était tranquille. Les manifestations étaient pacifiques. Mais je sens quand même qu'il y a toute cette insatisfaction du peuple, parce que le peuple a voté avec sagesse, avec hauteur, avec noblesse, avec choix aussi, puis de voir les résultats qui n'arrivent pas, et puis plus le temps avance, les gens deviennent anxieux d'une certaine façon. Mais la population veut vraiment une fin à cette crise politique et que, comme nous avons dit les évêques, nous renouvelons l'espérance que cette crise soit l'occasion que le pays se fortifie comme état de droit. Parce que c'est pas évident, même si nous vivons la démocratie depuis 35 ans à peu près, c'est quelque chose d'assez neuf. Et il y a beaucoup d'intérêts, il y a des idéologies qui jouent aussi, il y a des méfiances, c'est pas évident.
Vous craignez que cette situation, plutôt calme pour l'instant, puisse dégénérer?
Ça pourrait arriver, oui. Si ça dure trop longtemps, si les gens deviennent anxieux, manquent de confiance, et puis d'un côté comme de l'autre, on appelle des manifestations pacifiques sur la rue, mais ces manifestations-là, comme s'il y en a eu quelques-unes qui ont débordé, puis qu'il y a eu des excès de violence, il y a quand même 8 ou 9 personnes qui ont été tuées. Alors, c'est pas évident. Alors, plus ça traîne dans le temps, pire c'est pour la démocratie, puis pour la sécurité des gens aussi.
Face à ces risques, quelle est l'attitude des dirigeants politiques?
C'est sûr que chacun des deux partis revendique la victoire maintenant. Et je sens quand même chez les dirigeants politiques, au moins apparemment, un désir de respect, de dialogue, de s'ouvrir, de pouvoir se concerter. Maintenant, est-ce qu'ils y arriveront? Ça, je ne sais pas. Par exemple, le chef de l'opposition a demandé à ses partisans de ne pas bloquer les routes, surtout pour l'acheminement des produits, des médicaments. On nous racontait que la ville de La Ceiba, qui approvisionne les provisions de nourriture d'une région qui s'appelle la vallée du Bajo Aguan, cette route-là était coupée à cause de l'opposition. Alors, le chef de l'opposition a quand même demandé aux gens de laisser passer les gens et de ne pas nuire à l'économie du pays parce qu'il disait, je ne veux pas arriver à la prise de possession du pays le 26 janvier avec une économie totalement coulée.
Et du côté du gouvernement, du président actuel, du président sortant, là aussi, vous trouvez qu'il y a de la bonne volonté?
Ben, le président sortant, lui, il dit qu'il est prêt au recomptage. Tout. Il dit qu'il faut recompter les 18 000 procès-verbaux parce que le procès-verbal arrive au tribunal suprême électoral, mais il y a une copie pour chacun des partis. Alors, chacun des partis a une copie des procès-verbaux. Mais ça ne coïncide pas. Alors, c'est là qu'il faut arriver à confronter. Mais le président lui-même a dit, moi, je suis prêt à mettre les cartes sur table, à présenter tous les procès-verbaux, que de l'élévation que nous avons, et les confronter avec la version officielle du tribunal suprême électoral.
En cas de négociation, l'Église catholique pourrait-elle jouer le rôle de médiateur, comme ça s'est vu dans d'autres pays?
Je ne pense pas que l'Église s'offre dans le sens de dire que l'Église prenne les devants et s'offre comme facilitateur, mais un petit peu comme ça s'est fait en Colombie, ce sont souvent les deux parties qui ont demandé à l'Église d'être médiatrice de l'accord après l'immense conflit qu'il y a eu en Colombie durant des années. Alors, ça pourrait arriver parce que l'Église ici jouit d'un grand prestige, on pourrait dire de neutralité, de prestige, de grandes valeurs que nous proposons. Alors, c'est écouté par les gens. C'est possible que ça puisse se réaliser. Si on nous demande d'être des médiateurs, je pense bien que, même si je ne suis pas hondurien, de ma part, je pense bien que l'Église pourrait ou devrait offrir, si on lui demande de participer à cette négociation, que l'Église puisse, à travers Caritas, à travers la pastorale sociale, à travers des gens qui seront nommés, des laïcs et peut-être des prêtres aussi, pour arriver à aider à cette reconstruction du processus de dialogue et de paix et arriver à des solutions.
En parlant du rôle de l'Église, quel écho a eu l'appel du pape François lors de l'Angélus de dimanche dernier?
L'appel du pape était très apprécié, très apprécié. Le pape qui a demandé de prier pour que l'Honduras, au Honduras, on arrive à trouver une solution pacifique à ce conflit qui existe actuellement. Je pense que sa voix a été bien apprécié par tout le peuple hondurien, parce que le peuple apprécie beaucoup les interventions du Saint-Père. Et la conférence épiscopale demande aussi la prière au Seigneur, en vue que ce conflit puisse arriver à une solution viable et durable dans le dialogue et le respect.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.